Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, alors nouvel épisode aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, donc si vous êtes en mode cardio, si vous êtes en mode grand ménage de printemps, c'est l'épisode qu'il faut écouter. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir de quoi vous occuper les oreilles pendant une tâche qui est plus ou moins automatique. C'est ce que je recommande de faire parce que le podcast, contrairement aux vidéos, vous n'avez pas besoin de regarder, vous apprenez mieux en plus parce que vous avez que l'écoute qui est en lien avec le sujet et vous êtes pas, vous dispersez pas à regarder des petits détails visuels, etc. Donc, ce sera l'épisode à écouter si vous vous prévoyez de faire quelque chose qui va vous prendre quelques minutes de plus que d'habitude. Voilà. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de podcast mardi à 8h? Je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit bah, le podcast il sort pas, etc. Ben en fait c'est parce que moi j'enregistre les podcasts le lundi et lundi c'était lundi de Pâques, donc c'était férié. Donc la première raison est que ben voilà, c'est férié, donc j'ai pris un petit peu de repos, j'ai juste traité mes emails le matin et après j'ai glandouillé un petit peu. Enfin, je suis pas vraiment glandouillé, je fais du vélo, je fais pas mal de choses, mais je veux dire, j'ai pas bossé. Je me suis pris un jour férié aussi, comme tout le monde. Et donc, le podcast n'a pas pu sortir le mardi à 8h. Donc, c'est exceptionnel. En règle générale, quand vous avez des jours fériés dans la semaine, dites-vous bien une chose, c'est que la seule chose qui reste confirmée, c'est la formation du dimanche à 18h qui sort tout le temps. Mais c'est vrai que pour le podcast, des fois, je m'accorde un petit peu de décalage quand il y a des jours fériés. Voilà. Bon, en tout cas, il sortira quand même. Enfin, il est quand même sorti dans la bonne semaine. Donc, dans ce podcast, je vais vous citer rapidement le petit sommaire. On va parler de mes actualités, même si ça fait un peu prétentieux de parler d'actualité. Mais on va voir ce qui s'est passé un petit peu dans ma vie ces dernières semaines. Ensuite, on va avoir une étude sur la sieste. Donc la sieste qui n'est pas du tout populaire en France et du coup, ben, on va voir un petit peu comment l'utiliser pour tout un tas de choses d'ailleurs. Après, on va avoir aussi les vélos électriques. Ça commence un petit peu, l'électrique commence un peu à envahir l'hexagone et pas que d'ailleurs. Et je vais un petit peu vous donner un retour d'expérience et pas me baser uniquement sur de la théorie, etc., sur des retours. D'ailleurs, on parlera pas d'achat, de tous ces trucs-là. On va réellement parler de retour, mon retour personnel. Ensuite, on va voir la FAQ que j'ai sortie dimanche. Donc, je vais vous donner les sujets, les questions et tout ça pour que vous ayez un petit peu plus d'infos là-dessus. Et puis, ben, ça sera pas mal déjà. On aura pas mal de sujets à traiter. Donc, on démarre maintenant avec la partie sur ma vie personnelle. Alors, ma vie personnelle, qu'est-ce qui s'est passé dans... Enfin, quand je dis ma vie personnelle, c'est toujours lié au sport. Hein. Mais, comme vous le saviez, j'étais dans une salle de sport durant... ça faisait 3 ans que j'étais dans une salle de sport axée plutôt, on va dire, remise en forme que musculation hardcore. C'est-à-dire que j'étais dans une salle de sport où il n'y avait pas de barre libre, il n'y avait que, en fait, quelques haltères jusqu'à 30 kilos et des appareils guidés, etc., pour s'entraîner. Depuis peu, j'ai changé, parce qu'en fait, ben voilà, j'avais mes raisons. Donc, du coup, j'ai voulu changer et je suis parti dans une... Alors, je fais 2 salles. Il y en a une où j'ai pas encore pris le temps d'y aller. Une salle avec barre libre et des machines, qui sera plutôt pour le week-end. Et l'abonnement d'ailleurs est pas cher du tout, et une autre qui est vraiment ce que j'attendais, c'est-à-dire une salle avec que des athlètes, enfin des athlètes, des gens qui sont là pour faire du sport réellement. D'ailleurs ça fait vraiment bizarre d'arriver dans une, j'ai l'impression un petit peu, ça me fait comme quand je faisais quand j'étais plus jeune des sports type kung-fu, sport de combat et tout, où en fait on arrive pour faire du sport quoi, et c'est la chose qui manque un peu dans les salles de muscu on va dire grand public. C'est que vu qu'il y a un manque d'encadrement, ben il y a un manque de un petit peu d'intensité chez la majorité des gens, bien qu'il y ait quand même des athlètes dans ce genre de salle. Attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais quand on arrive dans une salle comme dans celle où je viens de m'inscrire, Et d'ailleurs, je précise que je paye mes abonnements en salle là, parce que c'est pas, je fais pas de la pub, etc. Parce qu'ils m'offrent un abonnement. Au contraire, eux, j'ai vraiment envie de les soutenir parce que ce sont des passionnés. Et vous remarquerez que je donne pas les noms de salles en plus. Donc il faut me suivre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu les salles où je m'entraîne. Et donc du coup cette salle a vraiment changé pour moi parce que je suis revenu. Alors ça faisait 3 ans que j'avais pas touché une barre libre au développé couché, que j'avais pas touché de barre libre au soulevé de terre ou au squat. Même si c'est des mouvements, je suis pas un powerlifter, je suis pas un fou du hardcore à l'ancienne, des vieux mouvements de base, etc. Mais bon, je fais quand même, ceux qui m'ont suivi, je fais un petit peu de squat libre. Je fais du soulevé de terre. Alors moi, je fais plus ou soulevé de terre, jambes semi-tendues pour les ischios, ou sinon, si je veux bosser le dos, moi j'ai une technique où je fais du soulevé de terre, vous savez, avec la barre qui démarre à hauteur mi-genou, là, enfin à hauteur un tout petit peu au-dessus des genoux, pour vraiment être sur lombaire et trapèze moyen. C'est vraiment un exercice que j'adore faire. Donc ça, celui-là, je l'ai pas encore intégré, mais j'ai repris le couché. Pour information, il y a 3 ans, quand je suis parti d'une salle où il y avait des barres libres pour une salle guidée, mon maxi était à 130 kg au développé couché. Aujourd'hui, j'ai repris à la première séance pour voir où j'en étais au couché. Franchement, en étant vraiment à l'aise, c'est-à-dire que j'aurais pu monter plus lourd. 120 kilos, c'est passé vraiment facile. Donc, je veux dire, ça a pas tremblé, j'ai pas mis 5 secondes à pousser la barre, etc. Donc, personnellement, certes, j'ai pas pris en force puisque je me suis pas entraîné sur du coucher libre. Mais par contre, j'ai quand même conservé de la force sur un mouvement que je n'ai pas pratiqué depuis 3 ans. Donc, le retour d'expérience qui m'est propre hein, par rapport à ça, c'est que s'entraîner sur machine, sur du guidé, etc. Enfin, il y a quand même un intérêt à faire ça. Enfin, c'est pas qu'il y a un intérêt, c'est qu'on peut préserver sa force à faire ça. Autre chose, je vois énormément de personnes qui pensent que sur le guidé, c'est plus facile que sur le libre. Alors, ce que vous essayez de faire la chose suivante. Vous prenez votre maxi sur une rep et vous le mettez sur votre développé couché classique. Donc, vous faites un maxi sur une rep. Et après, vous mettez le même poids. Et comptez bien le poids de la barre, hein, parce que les barres sont plus légères hein, sur les guidés en règle générale. Donc, mettez vraiment exactement le même poids sur un guidé et faites une rep. Et vous allez voir que ça sera certainement beaucoup plus dur sur le guidé. Enfin, c'est plus dur et plus facile à la fois. Ce qui est plus facile, c'est de retenir la barre. Pourquoi ? Parce qu'en retenant la barre, il y a un frottement sur les rails et ce frottement annule un petit peu la tension, on va dire, de négatif d'étirement. Enfin, pas d'étirement, vous allez quand même étirer. Mais la violence de la descente va être freinée par les frottements sur les guides, en fait. Par contre, quand vous allez pousser, ça va être le même schéma. C'est-à-dire que quand vous allez pousser, votre charge, elle va pas être libre comme sur un coucher libre, elle va être freinée par le frottement des rails. Donc, vous allez voir que ça va être certainement beaucoup plus difficile de faire un maxi équivalent sur guidé par rapport à des charges libres. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et je pense que beaucoup de personnes pensent que parce que c'est une machine, c'est plus facile. Détrompez-vous. Un appareil guidé peut être plus difficile à charge égale qu'un appareil sur charge libre. Voilà. Bon, ça, c'est... Bon, après, je sais qu'il y en a qui s'entraînent jamais sur guidé, donc ils peuvent pas trop avoir de point de vue. Mais voilà. Après, il y en a qui vont attendre de savoir quel est le meilleur. Pour moi, il n'y a pas de meilleur. Le guidé pendant 3 ans m'a permis de conserver le physique que j'avais. Comme vous savez, moi, je ne cherche pas à faire de compétition, donc je ne cherche pas à devenir le plus musclé, etc. Moi, ce que je veux, c'est conserver le physique au top de ma forme le plus longtemps possible. Donc, ce qui veut dire que je vais m'entraîner avec un entraînement spécifique et surtout une nutrition spécifique pour conserver ce physique-là. Et en fait, la progression se fait, mais pas comme on l'entend. C'est-à-dire que ça va être au niveau de la congestion, je vais congestionner plus vite sur du lourd, alors qu'avant je congestionnais pas sur du lourd. Je vais améliorer de la définition et de la, comment on appelle ça, du détaché musculaire sur certaines zones, alors qu'avant j'en avais moins. Mais visuellement, pour quelqu'un qui est pas expérimenté, il va se dire, je vois pas de différence en fait. Mais c'est normal. Il y a que l'œil un petit peu éclairé qui voit ça. Et moi, c'est ma petite motivation, c'est de continuer à faire évoluer mon physique en termes de qualité musculaire, de densité musculaire, mais pas du tout en termes de volume musculaire, qui pour moi n'est pas... Enfin, c'est pas une quête, en fait, d'avoir 52 bras et tout. Je sais que pour beaucoup, c'est le cas, d'avoir des cuisses énormes, d'avoir des bras énormes et tout ça. Moi, c'est pas mon but. C'est pour ça que le podcast s'appelle La Pause Fitness, que mon site s'appelle Fitness Miss. Rien à voir. C'est pas du bodybuilding. C'est vraiment autre chose. Voilà. Donc, ben mes retours sur cette nouvelle salle. C'est une salle qui est très, très, on va dire, limitée en termes de d'équipement, on va dire, musculation, machine. C'est-à-dire qu'il y a poulie vis-à-vis, tirage dos horizontal, vertical, il y a leg extension, leg curl, et on s'arrête plus ou moins là en termes de machine. Et non, il y a une super presse à cuisse aussi. Et en termes de machine, on s'arrête là. Par contre, après, il y a énormément d'équipements d'haltérophilie. Il y a un super banc de développé couché qui est homologué IPF, donc avec un dossier, un dossier qui est super large, qui a une très confortable, etc. Les omoplates, elles sont vraiment bien calées, qui est en plus équipé avec des très bonnes barres. Après, bon, beaucoup de barres de traction, il y a des anneaux, il y a tout un panel d'équipements au niveau conditioning. Pour ceux qui s'entraînent un petit peu en mode crossfit, etc. Bon, moi, c'est pas mon truc, mais je veux dire, voilà, il y a ça. Même si moi, je vais peut-être l'utiliser pour faire mes entraînements un peu cardio haute intensité, mais pas dans une stratégie crossfit. Et puis après, au niveau des équipements cardio, ben, on a pas mal d'ergo. Donc, il y a l'asso bike, il y a les rameurs, il y a des vélos. Il y a aussi, je sais plus comment on appelle ça, le truc où on fait du ski un peu comme du rameur. Là, vous savez, comme des bâtons de ski où on pousse. Alors, certains retrouveront le nom, moi je l'ai plus là. Et puis, il y a aussi le sleigh, je crois qu'on appelle ça. Le chariot, là, vous savez, le chariot qu'on charge et qu'on pousse. Comme nos footballs américains et tout ça. Bon, bref, voilà, il y a plein d'équipements, les cordes de battement, les cordes à sauter et tout ça. Et donc, bon, cette salle, moi, me convient, me suffit. Et à chaque fois que je m'entraîne, moi, je cherche toujours plus ou moins la même chose. C'est en fonction de ce que j'ai à disposition, comment je peux faire pour me mettre le compte, en fait. Donc, du coup, quand j'étais dans une salle plus ou moins en appareil guidé, j'ai cherché à me mettre le compte et j'y suis arrivé. Et là, dans une salle comme ça, pour me mettre le compte, j'y arrive aussi. Donc, c'est pas du tout une question de matos, de quoi que ce soit. La progression, c'est vraiment la capacité que vous avez à vous mettre le compte à la salle. Après, quand on parle de blessures, de mieux pour l'un, de mieux pour l'autre, déjà, d'une, c'est très individuel. De deux, quand on souhaite progresser, que ça soit sur machine, barre, machin, il y a des risques de blessures qui sont différents, mais ils existent quand même. On peut faire n'importe quoi sur machine et se blesser, comme on peut faire très bien sur des appareils libres et ne pas se blesser. Moi, je pense que les blessures arrivent surtout sur la durée. Sur l'usure, je pense que les blessures d'usure sont beaucoup plus fréquentes que des blessures accident à l'entraînement. Et d'ailleurs, moi, je me suis blessé tout en m'entraînant sur machine et je me suis aussi blessé tout en m'entraînant sur charge libre. Et c'est pas des blessures accident, c'est vraiment des blessures d'usure parce que le mouvement a été répété trop longtemps, trop de fois, etc. Donc tout ça, et puis il faut pas oublier une chose, c'est que s'il y avait pas de risque de blessure, on pourrait y aller vraiment tout le temps à fond, sans trop s'inquiéter, et donc progresser beaucoup plus vite. Et la blessure c'est un paramètre qui dicte un petit peu la progression, parce que si on fait n'importe quoi, on se blesse. Si on se blesse, on doit se reposer. Si on se repose, on progresse moins. Et donc, du coup, là, sur toute une vie, la progression sera ralentie. Donc voilà, ça, c'était ma petite actualité par rapport à ça. Maintenant, j'aimerais vous rentrer un petit peu plus dans un sujet qui va vous apprendre quelque chose. D'ailleurs, faut que je réouvre l'étude. Une étude que vous pouvez retrouver en plus en français, c'est très rare, qui est dans le volume 16, issue 1 de mars 2019, page 63, de médecine du sommeil. Et le titre, c'est « Sieste récupératrice versus sieste énergisante, des effets différents sur les performances du sportif de haut niveau ». Alors, je vous lis l'étude et puis on en parle ensuite. Alors, l'objectif, la sieste est une stratégie indispensable à la récupération et à la performance. Cependant, il existe différents types de siestes en raison des fonctions qu'elles accomplissent. La sieste peut être utile pour améliorer les performances de l'après-midi, exemple sieste énergisante, mais elle peut aussi être utilisée pour compenser une dette de sommeil, exemple la sieste récupératrice. Par ailleurs, leurs effets sur les performances du sportif de haut niveau ont été très peu étudiés. Le but de cette étude est de différencier deux types de siestes et de connaître leurs effets sur la performance. Alors, Dans ce travail, nous avons comparé chez les karatékas masculins les performances physiques et cognitives obtenues après une sieste ou un repos actif de 30 à 13 heures, de 30 minutes à 13 heures. Les situations expérimentales étaient soit nuit normale, soit une restriction de sommeil de 4 heures en fin de nuit. Les tests d'évaluation étaient des tests cognitifs, donc temps de réaction simple, rotation mentale, et des tests physiques, squat jump, counter movement jump, test spécifique de karaté. Résultat, la sieste énergisante a amélioré la vigilance et les performances cognitives sans effet significatif sur les performances physiques. La sieste récupératrice a restauré aussi bien les performances physiques que cognitives qui ont été dégradées par la privation de sommeil. Conclusion, les deux types de sieste ont eu des effets différenciés. La sieste énergisante améliore surtout les performances cognitives et les effets bénéfiques de la sieste récupératrice s'observent principalement sur les performances physiques. Alors, ce qu'on peut voir, déjà, bon, la sieste a mauvaise presse en France, mais moi je pense que pour tout sportif qui n'arrive pas à bien caler son sommeil la nuit, la sieste est quelque chose de très bien. Moi je vais prendre ça par rapport aux pratiquants de musculation, qui a besoin d'une certaine concentration, par exemple, avant un mouvement relativement lourd pour bien se connecter, etc., pour être bien concentré, pour bien localiser, pour bien penser à gainer sur certains mouvements dangereux, etc. Moi, c'est mon point de vue, mais quand j'ai un petit déficit de sommeil durant la nuit, c'est-à-dire que je me suis levé très tôt et couché pas trop tôt, et parce que moi, comme vous savez, j'aime bien garder un rythme de réveil le matin plus ou moins stable sur toute la semaine, à une heure et demie près, que ça soit toujours la même chose. Mais par contre, des fois, je me couche plus tard, donc j'ai moins de sommeil. Et j'ai remarqué une chose, c'est que une petite sieste de 30 minutes maximum, voire 45 minutes vraiment si j'ai eu très peu de sommeil, mais c'est très rare d'avoir 45 minutes, j'ai plutôt la tête dans le cul quand je me réveille, mais 30 minutes c'est bien, juste après manger le midi, avant de reprendre le boulot, me permet de recharger un petit peu les batteries au niveau mental, mais également au niveau physique, comme s'il y avait un... Au niveau physique, comme ils disent dans l'étude, je ne dois pas récupérer pendant ces 30 minutes. Mais par contre, le fait de récupérer au niveau mental me permet d'être mieux connecté au niveau physique. En fait, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, cette étude ne montre pas qu'il y a des meilleures performances physiques. Mais par contre, je pense personnellement que j'ai moins de risques de blessures, par exemple, après avoir fait une petite sieste, même en étant en déficit de sommeil. Pourquoi ? Parce que je vais être plus concentré. Après, il y a autre chose que je remarque dans cette étude, c'est que ils disent les situations expérimentales étaient soit des nuits normales, soit une restriction de sommeil de 4 heures en fin de nuit. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'une restriction de sommeil de 4 heures en fin de nuit, on est plutôt sur le sommeil, on va avoir un ratio de sommeil paradoxal supérieur au sommeil lent, à onde lente. Donc, en fait, le sommeil lent profond, c'est plutôt le sommeil où on va récupérer physiquement. Alors là, je schématise énormément. Il y a aussi d'autres phénomènes qui se passent durant le sommeil profond, et notamment au niveau hormonal. Mais le sommeil profond, pensez une chose, c'est que le sommeil profond permet de récupérer beaucoup physiquement. Et ce sommeil-là, on a un plus gros ratio de sommeil profond en début de nuit. Donc moi, j'avais lu pas mal d'autres références dans la littérature qui disaient plutôt que c'était proche du début de la sécrétion de la mélatonine, c'est-à-dire que la mélatonine, qui est une hormone du sommeil liée à la lumière du jour, etc., c'est-à-dire que quand on perçoit la lumière du jour le matin, on va couper la production de mélatonine. Quand la journée se couche le soir et qu'on est dans l'obscurité, la production de mélatonine reprend. Et donc, plus on a du sommeil proche de ce début de production de mélatonine, donc c'est-à-dire que quand quand le soleil se couche, si on se couche pas trop tard après, on va avoir un bon sommeil profond. Et ça, ce qui était intéressant, c'est que à heure de sommeil égale, et alors ça en plus c'est des tests que j'ai fait, j'ai un tracker d'analyse du sommeil, plus de toute façon j'ai pas trop besoin parce que on voit bien notre état de forme au réveil. Si j'ai 8 heures de sommeil, par exemple, entre je me couche à minuit, je me lève à 8 heures, eh ben je n'ai pas la même forme que si je me lève à 6 heures et que je me couche à 10 heures. Donc en fait, en gros, à nombre d'heures de sommeil égales, l'heure à laquelle je vais me coucher va influencer ma récupération. Et ça, je pense que l'explication derrière ça, mon hypothèse, qui n'est pas mon hypothèse à moi, mais qui est, je pense, l'hypothèse de beaucoup de personnes qui font des recherches sur le sommeil, vient du fait que le ratio du sommeil profond est plus important en début de nuit. Donc plus on aura d'heures de sommeil entre guillemets entre, on va dire, 21h et 23h, si on arrive à se coucher dans ce laps de temps-là, on va privilégier une récupération physique. En fait, on va mettre plus de chances de notre côté pour la récupération physique. Mais là, dans cette étude, en fait, ils ont fait une restriction de sommeil de 4 heures en fin de nuit. Donc, en fin de nuit, on a un ratio, comme je disais tout à l'heure, qui est plus sur le sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal, c'est entre autres là où il y a les rêves les plus intenses, etc. Mais il faut plutôt voir ça comme une forme de digestion mentale, de récupération au niveau mental, psychologique, etc. Donc là, il disait que dans les deux cas, il y a une amélioration des performances cognitives, ce qui est normal, puisqu'en fait, moi, ce qui me semble normal, c'est que dans les deux cas, on retrouve une amélioration des performances cognitives parce que la privation de sommeil qui a été faite, c'était 4 heures en fin de nuit. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est chez des personnes qui se couchent tard versus des personnes qui se couchent plus tôt, mais à heure de sommeil égale, et qui fassent le test avec les siestes, etc. Voir si, par exemple, si une personne qui se couche très tard, donc on va dire 3 heures du matin, enfin peut-être pas 3 heures du matin, parce que là, c'est même plus on se couche le matin, là, mais qui va se coucher, on va dire, entre minuit et 2 heures du matin, comme font beaucoup de personnes d'ailleurs, même des sportifs, ça, c'est inquiétant, mais bon bref, enfin c'est inquiétant, chacun fait ce qu'il veut, mais bon bref, c'est pas super top pour la récup. J'aurais aimé savoir si ces personnes-là qui se couchent tard, si elles font une sieste de 30 minutes, est-ce qu'il y a récupération physique en fait ? Est-ce que durant la sieste, l'organisme a le temps de faire un petit cycle par le sommeil profond et permet de récupérer physiquement ? Parce qu'en fait, là, moi, ça me paraît plus logique par rapport à ça. Donc, c'est pour ça, quand on lit des études, il faut toujours... Déjà, enfin moi, si j'avais pas tout le background que j'ai sur le sommeil, toutes les études que j'ai lues, alors 2016, 2017, enfin non, plus 2017, 2018, j'ai fait un très gros travail sur le sommeil où j'ai beaucoup appris. Ça a été vraiment un centre d'occupation pour moi parce que je trouve que c'est très très important et en fait, à part les recommandations bien dormir, blablabla, on n'avait rien finalement pour optimiser son sommeil. Et c'est pour ça, les gens qui sont VIP, ils ont vu que durant ces années, j'ai fait énormément de contenu sur le sommeil avec les cycles, les hormones, toutes ces choses-là. En fait, tout ce qui rentre dans le sommeil, en fait, dans les cycles de sommeil. Parce que j'avais envie de comprendre et j'avais surtout envie d'apporter des réponses aux gens, de faire un petit peu progresser dans le monde du sportif les connaissances sur le sommeil. Et ben là, par rapport à mes connaissances que j'ai acquises sur le long terme, on va dire, j'ai pu me rendre compte de cette petite chose là qui est que le sommeil de 4 heures en fin de nuit crée en fait une situation particulière dans les résultats de l'étude. J'aurais préféré qu'ils aient supprimé 4 heures soit de manière aléatoire. Donc, c'est-à-dire faire des gens un peu en biphasique, donc qui vont dormir 2 heures, se réveiller 2 heures, redormir 3 heures. Des personnes qui enlèvent 4 heures, par exemple, en début de nuit, et des personnes 4 heures en fin de nuit, mais plusieurs tests différents. Parce que là, on a uniquement sur ça, et malheureusement, ça... Enfin, voilà. Je suis curieux de savoir si on est capable de récupérer physiquement. Enfin, bon, bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que le sommeil me passionne toujours autant, même si je dors très bien. Mais justement, c'est parce que j'ai appris tout ça que je dors très bien aujourd'hui. Et d'ailleurs, le sommeil, je me rends compte que le contenu est extrêmement pauvre, même chez les experts sur le sommeil. Je me rends compte qu'il y a vraiment, vu qu'on est tous différents par rapport au sommeil, il y a énormément d'informations qui circulent, un peu comme sur la nutrition. Sauf que la nutrition, quelqu'un qui s'est un petit peu cherché peut trouver des choses qui lui correspondent, parce qu'on a beaucoup de retours, en fait, d'expériences, etc., plus de littérature scientifique, etc., qui peuvent venir confirmer ou contredire ce qu'on peut lire. Mais sur le sommeil, on a assez peu de retours constructifs de personnes. Et la littérature, on va dire que, à part dans les études, on a très peu de contenu, en fait, de bouquins sur le sommeil et tout ça. On va avoir des bouquins sur les pathologies, les machins, mais sur le sommeil du sportif, à proprement parler, moi, j'en connais qu'un bouquin qui est Sport et sommeil, qui est pas mal, mais bon, voilà, le bouquin n'est pas tout jeune non plus. Et comme on sait, la recherche, moi, c'est toutes les semaines que je reçois des actus là-dessus, donc c'est toujours mieux pour le grand public un livre que les études scientifiques, quoi. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Donc en gros, si vous voulez récupérer, vous pouvez très bien faire une petite sieste. Moi, je recommande plutôt... Alors, si vous manquez vraiment de sommeil, que vous avez fait une très courte nuit, vous pouvez monter au-dessus de 30 minutes. Si vous travaillez, par exemple, du matin, vous êtes boulanger ou quoi, évidemment, la sieste de 30 minutes, vous pouvez la gonfler un petit peu. Vous allez avoir ce qu'on appelle un peu d'inertie du sommeil, c'est-à-dire que vous allez être emporté, en fait, dans un état, en fait, un peu vaseux. Et là, il va falloir trouver une technique pour vous relancer votre énergie, de pas, par exemple, faire une heure de sieste, monter dans votre bagnole et taper une séance de canne direct après. Vous allez avoir un petit peu de mal à rentrer dans votre séance, surtout au niveau cardiovasculaire. En plus, c'est pas top. La vigilance baisse, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est que il y ait une période, un sas, en fait, de remise sous tension, vous allez avoir un échauffement peut-être plus long, vous activez un petit peu, par exemple, en sortant de la sieste, vous activez, vous faites, je sais pas, bon, un coup de serpillière, un coup d'aspirateur, en fait, pour vous remettre en activité et aussi voir la lumière du jour, très important. Mais après, pour des personnes qui ont un sommeil, on va dire 6h, 6h30, 7h, 7h30 par nuit, très peu de personnes ont 8h d'ailleurs, et on verra que 8h de sommeil tout rond. Pour ceux qui ont suivi mes formations savent que 8 heures de sommeil tout rond, finalement, c'est un peu contradictoire par rapport au cycle de sommeil qui ne correspondent pas si on les additionne 8 heures pile. Mais bon, encore une fois, les cycles, c'est variable. Mais bon, la grande tendance dirait qu'on est plutôt sur un chiffre qui ne correspondrait pas si on les additionne à 8 tout pile. Donc, c'est une moyenne, on va dire. Mais bon, pour les personnes qui ont entre 6 et 8 heures de sommeil par nuit, une sieste de 20-30 minutes, ça suffit largement. Et ça permet vraiment, surtout si vous avez une charge mentale assez élevée dans la journée, par exemple, je sais pas, vous êtes créatif ou, enfin voilà, vous êtes contrôlé, vous contrôlez pas mal de choses au niveau mental et que aussi peut-être vous êtes stressé et tout ça, la sieste va être hyper 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 profitable. Ça fait comme un petit reset, comme une pause, comme une deuxième petite journée qui démarre après la sieste. Et moi, je l'ai adopté depuis des années. Parce que voilà, c'est quelque chose. En fait, on a le choix. Quand on prend la pause déjeuner, on mange. Alors, il y en a après qui vont aller se caler sur les réseaux sociaux et tout et pas voir le temps passer. Et puis il y a ceux, très peu de gens, qui vont profiter de ce petit temps de pause pour fermer les yeux quelques minutes et recharger un peu les batteries. Moi, je me rappelle quand je travaillais dans l'industrie, je voyais donc les employés de l'usine, certains qui partaient. Se mettre dans leur bagnole après la pause déjeuner et qui dormaient un petit peu pendant que les autres, ben voilà, ils étaient à la machine à café, en train de prendre un café parce qu'ils somnolaient, et puis sur les téléphones, ou voilà, ils faisaient tout un tas de choses, mais ils se reposaient pas. Et enfin voilà, le ratio était favorable, on va dire, enfin favorable. Il y avait beaucoup plus de personnes qui ne faisaient pas la sieste que de personnes qui faisaient la sieste. Bon, bref, sachez que la sieste, c'est une très bonne pratique, il faut encore la maîtriser. Et savoir que ça peut être bénéfique pour vos entraînements et vos performances mentales. Voilà. Deuxième point que je voulais traiter avec vous. Alors, est-ce que je suis toujours en enregistrement là ? Visiblement, oui. Je voulais vous parler du vélo électrique Homemade. Alors, avec mon accent, bon, fait maison, quoi. En fait, moi, je cherchais un deuxième véhicule. C'est-à-dire que moi, j'ai une voiture. Mais je me sers tellement peu de ma voiture qu'en fait, la batterie, je perds de la batterie. Et je me suis dit, bon, bah attends, là, c'est à pas te servir de ta voiture, beaucoup. En plus, tes trajets quotidiens, c'est dans le coin. La salle, elle est à moins d'un kilomètre. Enfin non, peut-être 1,5 km, 2 km maximum. Mes amis et tout ça, quand je vais les voir dans des cafés, on se rejoint pour boire un café ou quoi, c'est pas loin. Mes petites courses, des fois, je vais au marché et tout ça, c'est pas loin aussi. En fait, prendre la voiture, pour moi, ça devenait... c'était un petit peu, on va dire, déjà d'une, pas trop écologique. Et puis, en fait, j'avais pas réellement le besoin. Alors, je m'étais tourné. Moi, j'adore les véhicules électriques. Mon rêve, c'est d'avoir une Tesla un jour. Quand je vois les prix, pour l'instant, je fais « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Et surtout que le modèle que je veux n'est pas encore disponible en France. Mais moi, je suis fan des véhicules électriques. Je suis fan de technologie, etc. Donc... pour moi, le véhicule électrique, c'est vraiment ce vers quoi il faut se tourner pour les années à venir. Et j'ai regardé un petit peu tout ce qui est scooter électrique, etc. Mais ça me posait un problème parce qu'il n'y avait pas ce côté un petit peu activité physique. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que je suis conscient qu'il faut bouger au quotidien pour être en forme. Bon, quand on fait de la musculation, on bouge au quotidien, mais quand on a un travail plutôt sédentaire, enregistrer un podcast, aider des personnes sur Internet, etc., faire de la consultation, écrire, répondre à des emails, enfin toutes ces choses-là, c'est un travail plutôt sédentaire, donc on est plutôt assis, et tout ce qui peut ajouter un petit peu d'activité physique, on va dire que c'est plutôt profitable, surtout que le but c'est de bouger, pas de s'épuiser, mais de bouger un petit peu. Et donc, bon, le scooter électrique me donnait l'opportunité d'aller plus loin, mais finalement, je ne vais pas forcément plus loin dans mon quotidien. Donc, next, pour aller plus loin, j'ai la voiture, et puis voilà. Ensuite, j'ai regardé un petit peu les trottinettes électriques. Alors, les trottinettes électriques, je trouvais plusieurs points faibles. C'est que, à part une notion un peu de gainage, on fait pas beaucoup d'activité physique quand on est dessus, quoi. On bouge pas trop. Deuxième chose, c'est plutôt dangereux parce que les puissances sont relativement élevées, c'est-à-dire qu'on va relativement vite. Je sais pas, pour ceux qui sont montés sur une trottinette, même si voilà, moi j'ai fait des sports de glisse pendant quelques années, je peux vous dire que l'équilibre je l'ai. Quand vous êtes lancé à 45 ou 50 km/h sur une piste cyclable et qu'il y a un nid de poule, quand ça guidonne avec une trottinette, c'est pas pareil que sur une moto ou sur un vélo. Donc je trouvais ça un petit peu dangereux, et puis il y avait ce côté pas forcément très sportif. Après, l'avantage c'est que par exemple, vous le foutez dans le coffre de la bagnole, et puis vous laissez votre voiture à un endroit, et puis comme ça, ça vous permet de pas chercher des stationnements à droite à gauche, vous pouvez rouler avec. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, le vélo, ça a l'air bien, vélo électrique, ça a l'air quand même cool. Et puis j'ai commencé à regarder les prix des vélos électriques, et j'ai fait waouh. Et puis, je me suis dit, ça me fait quand même un peu chier de prendre un vélo électrique, alors que j'ai déjà un vélo que j'aime bien, je suis habitué. En plus, c'est un cadeau, enfin voilà, ça m'embêtait de prendre un vélo 100% électrique. Déjà d'une, quand j'ai vu le prix, j'ai halluciné, quand j'ai vu le poids, j'ai halluciné, parce que si on veut quelque chose de sympa pour faire un peu de VTT et tout, ça commence quand même avec une batterie, avec une autonomie intéressante, les prix montent super vite, et je me suis dit, bon voilà, moi le vélo, déjà dans mon entourage, je suis le seul à avoir un vélo électrique maintenant. Je vais pas me prendre un truc hors de prix, parce que faire des sorties tout seul et tout ça, bon, j'aime bien faire du vélo, mais bon, je vais pas investir dans un truc si je suis le seul gland à avoir un vélo et que mes potes veulent plus venir avec moi parce que justement il y a un moteur sur mon truc et que c'est pas du jeu, quoi. J'ai abandonné l'idée d'acheter un vélo tout fait, et puis en cherchant un peu, moi qui suis un peu bricoleur, un peu geek sur les bords, je me suis dit, mais peut-être qu'on peut monter en fait un moteur sur son propre vélo. Et je me suis rendu compte que oui, en fait il existe trois types de moteurs, un moteur qu'on va mettre dans la roue avant, ou un moteur qu'on va mettre dans la roue arrière, ou un moteur qu'on va mettre, enfin en fait c'est un pédalier de remplacement avec un moteur qui viendra se loger à la place du pédalier d'origine. Et j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé mon bonheur, et je me suis équipé, en fait je me suis fabriqué mon propre vélo électrique. Donc la seule référence que je vais vous donner par rapport à ça, c'est que moi, le moteur, je l'ai trouvé sur le site Cycloboost. Alors, à savoir une chose, avant de monter, d'équiper votre propre vélo électrique, ce que moi, j'ai remarqué, c'est que déjà, il y a une législation par rapport à ça. Donc, je vais vous la lire. La législation française autorise l'appellation vélo à assistance électrique. Les vélos dont la puissance nominale électrique ne dépasse pas 250 watts, et donc la vitesse maximum autorisée sous assistance ne dépasse pas les 25 km par heure. Ainsi, un vélo ne respectant pas ces normes sera considéré comme un vélo moteur, et vous devrez respecter la législation correspondante, disposer depuis le 1er juillet 2004 d'une plaque d'immatriculation, souscrire à une assurance de type cyclomoteur, porter un casque motocycle, disposer du brevet de sécurité routière. Donc voilà. Donc, si vous voulez rester dans la légalité, il faut respecter ces conditions-là si vous voulez équiper votre vélo électrique. Donc, l'avantage de ça, c'est que le petit retour que j'ai par rapport à ça. Alors, c'est pas facile à monter, hein, les moteurs là. C'est quand même. Moi, je suis bricoleur, mais il faut quelques outils, l'arrache-pédalier, voilà, il faut. Et puis après, il faut faire ça proprement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la batterie installée, etc. Et puis, n'oubliez pas aussi de le sécuriser, d'acheter un bon cadenas, parce que la valeur de votre vélo va monter d'un coup. Même si vous avez un vélo bas de gamme, le fait de monter un moteur, la valeur va monter. Donc, pensez à bien le sécuriser. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, enfin l'avantage c'est que quand même la batterie se démonte. En fait, c'est-à-dire que vous avez une batterie par clé que vous verrouillez avec une clé, vous déverrouillez avec la clé, vous pouvez l'emporter chez vous pour la recharger. Par exemple, si le vélo est dans le garage et que la prise elle est chez vous, vous enlevez la batterie. Ou quand vous allez, je sais pas moi, quand je vais faire mes courses, par exemple, j'enlève la batterie, je la mets dans mon sac parce que en fait c'est la batterie qui coûte cher et que si vous vous faites piquer un truc, ce sera surtout la batterie. Donc vous pouvez l'enlever, ce qui est quand même pas mal. Donc moi, le retour que j'ai par rapport à ça, là, je vous ai donné un petit peu les caractéristiques et les aspects techniques. Le montage m'a pris à peu près 3-4 heures en prenant mon temps de bien faire passer les fils, etc. Et puis, je suis parti un petit peu faire des sorties. Ce que j'ai remarqué, c'est que au niveau cardio, on monte moins dans les tours. Forcément, il y a une assistance électrique. Mais quand même, moi, j'étais à peu près à 130 battements par minute. Donc il y a quand même un petit effort cardio, mais l'avantage en fait c'est que j'ai fait, au lieu de faire 10 bornes, j'ai fait 20 bornes. Parce qu'en fait cette assistance permet de faciliter les côtes, etc. Alors pour une personne qui fait que du vélo, qui pour lui le vélo est l'activité principale, je pense pas que ça soit intéressant dans le sens où si l'effort maxi il est fait sur le vélo en général, le fait de mettre une assistance électrique, on va réduire son effort maxi, donc on va réduire l'intensité de travail. Voilà. Mais pour quelqu'un comme moi qui tape des squats, de la presse lourd, de la muscu, etc., j'ai pas besoin d'efforts intenses à me cramer sur des côtes, etc., bien que je puisse le faire encore. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, d'une part, un moyen de transport secondaire écologique, vert, etc., qui me permettent quand même de faire circuler un peu le sang. C'est comme ça que je le vois. C'est pas du tout comme un outil sportif. Et c'est pour ça, sur Instagram, vous avez dû voir, j'ai publié quelques sorties que j'avais fait avec, et on voit que ça permet d'aller faire un petit peu du tout-chemin beaucoup plus facilement, et c'est beaucoup plus agréable que si le vélo n'était pas assisté. Mais après, les puristes du cyclisme... Mais d'ailleurs, il y a un triathlète de là où je m'entraîne, là. Enfin, ça se dit pas ce que je viens de dire, mais un triathlète qui est dans la salle où je m'entraîne, quand j'en parlais rapidement au coach là-bas du montage que j'avais fait, il est sorti de la salle durant sa séance pour regarder, parce que vous savez, le triathlon, c'est vélo, nage et course à pied. Et vu qu'il fait du vélo, il est venu voir un petit peu le montage, savoir combien ça coûtait, etc. Donc, bon, après, les prix, vous regarderez sur le site que je vous ai donné, il y a pour tous les prix. Mais le moteur homologué, il est pas cher, en fait. Parce que, c'est 250 watts, etc. C'est surtout, en fait, la batterie que vous allez mettre qui va coûter cher, selon l'autonomie que vous voulez. Le moteur en lui-même n'est pas excessif. Alors, n'est pas excessif, ça reste un budget, attention, hein, mais n'est pas excessif par rapport à un vélo électrique tout fait. C'est ça, le truc. Et moi, l'astuce que je vous donnerai, c'est de prendre un vélo le plus léger possible. Par exemple, si vous voulez vous monter vous-même votre vélo, vous allez genre à Decat ou quoi, vous prenez un vélo léger. De préférence avec quand même le maximum de suspension possible. Alors là, moi je suis amateur, hein. Je suis pas du tout professionnel, mais je suis un amateur là-dedans. Mais prendre le vélo le plus suspendu possible et le plus léger possible, de manière à ce que quand vous allez l'équiper, le poids ne soit pas trop lourd. Parce que par exemple, si vous tombez en rade de batterie, il faut pédaler quand même avec le poids du moteur et de la batterie. Donc ça change un petit peu. Donc si vous avez déjà un vélo léger, ça aide. Mais il y a aussi ce côté que moi, pourquoi je l'ai fait sur mon vélo tout suspendu ? Parce que vu qu'il y a un moteur électrique et une batterie, c'est quand même des composants électroniques, etc., qui est à l'intérieur. Et le fait que ce soit suspendu, ça va absorber un petit peu les chocs du terrain et donc préserver un peu tout ce qui est la visserie, les soudures, etc., quoi. Donc ça, c'est mes petits conseils de bricoleur, qui que je vous donne. Donc voilà un petit peu le retour que je peux vous faire sur le vélo électrique. Moi, je suis plutôt fan. Et après, faites gaffe, suivez bien les recommandations, la législation française si vous voulez équiper votre vélo. Alors, là, dimanche à 18h, j'ai sorti une foire aux questions, c'est comme ça qu'on dit, une FAQ, où j'ai traité de plusieurs choses. Mais si vous voulez voir toute la vidéo, voilà les sujets que je traite. Les problématiques dans les revues, les magazines, etc., par rapport à la diète, de tous les petits problèmes qu'il y a par rapport à ça et les moyens d'éviter ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pourquoi les antibiotiques nécessitent une approche particulière pour rebondir pendant et après un traitement. La théorie du bus protéique, est-ce une méthode novatrice pour améliorer la synthèse protéique? Pour ou contre les rappels musculaires, la technique qui fonctionne à coup sûr, alimentation et santé féminine, les pistes à explorer, la loi de l'aminogramme contre la politique du bon sens technique rapide, pourquoi certains ont des veines apparentes et comprendre le phénomène, hypothèse, alors ça c'est une hypothèse personnelle que je traite, et par rapport aussi à la sudation de ceux qui transpirent moins, de ceux qui transpirent plus, etc. Bon ou mauvais signe d'ailleurs, et on va voir ce qu'il en est par rapport à ça. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis maintenant un seul lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez retrouver tout ça. Vous cliquez et vous verrez, il y a toutes les sources. Et puis voilà, si vous voulez me laisser une question audio, un message audio pour le prochain épisode ou pour les épisodes qui vont suivre, il y a aussi le lien c'est un lien unique dans la description. Vous avez juste à cliquer, vous descendez en bas, il y a marqué message audio et vous me laissez votre petit message audio pour pouvoir passer déjà dans le podcast et puis avoir votre réponse. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble et j'espère que tout se passe toujours bien pour votre séance de cardio ou votre ménage. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et en attendant, restez en forme. Ciao !